La semaine dernière, je vous apprenais à passer les médias au détecteur de mensonges et plusieurs d'entre vous m'ont posé la question suivante. Oui, mais lutter contre le mensonge, lutter contre le système que l'on dénonce, est-ce que ce n'est pas renforcer ce système? C'est une excellente question et je prends le temps d'y répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 25 qui aurait dû être publiée le lundi 27 janvier 2020 mais qui n'a pas été publiée et je vous dirai pourquoi dans cette vidéo si vous m'écoutez presque jusqu'au bout. Alors, la question que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est une question qui m'a été renvoyée par plusieurs de mes amis ces derniers temps, qui m'a été renvoyé aussi par plusieurs personnes qui me suivent sur ma chaîne privée. Et je les remercie tous et toutes de m'avoir interpellé parce que, je dirais, si je devais résumer leur interpellation vis-à-vis de moi, c'est de dire « Mais Jean-Jacques, on trouve que là, tu y vas un peu fort parce que est-ce que tu n'es pas tombé dans une espèce de paranoïa? Est-ce que tu n'es pas tombé dans une espèce de va-t'en-guerre? Est-ce que tu n'es pas tombé dans une espèce de dénonciation systématique du jeu de l'élite mondiale avec toutes les saloperies qu'ils sont en train de nous faire? Et est-ce qu'en faisant ça, finalement, tu n'es pas en train de renforcer le système que tu prétends combattre? Et en combattant ce système, finalement, tu commences de plus en plus à faire partie du problème que tu es en train de dénoncer par ailleurs. Et plusieurs de mes amis et plusieurs personnes de la chaîne privée m'ont même prévenu en disant « Bah écoute, là, on décroche, là, on ne te suit plus. Désolé, mais ta position nous paraît de plus en plus négative et ce n'est pas de cela qu'on a envie. Nous, on a envie de créer une meilleure vie, on a envie de créer un meilleur monde. On te suit sur le projet de réenchanter le monde, mais si réenchanter le monde, ça passe par la dénonciation systématique de toutes les saloperies qui se passent dans le monde au-dessus de nos têtes et qui sont perpétrées par l'élite mondiale, par les multinationales, par les gouvernements, avec la complicité des médias, Jean-Jacques, on ne te suit plus. Bien. Et donc, c'est cette question-là que je voudrais traiter avec vous. J'avais préparé un autre sujet pour aujourd'hui. J'avais préparé un sujet où j'allais vous annoncer une bonne nouvelle, mais bon, ça, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, je vous fais quand même déjà un cliffhanger, je vous fais un scoop. Donc, la nouvelle que je vous annoncerai la semaine prochaine, c'est que, en fait, la référence mondiale, le pape de la climatologie, qui est vraiment la personne de référence au niveau du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'études du climat, a perdu récemment un procès qu'il avait mené lui-même contre un de ses contradicteurs qui critiquait ses travaux et qui dénonçait le fait qu'il avait trafiqué les données et qu'il avait trafiqué les formules pour pouvoir justement sortir sa courbe en crosse de hockey qui a été réutilisée par Al Gore. Et donc ce climatologue qui attaquait le pape de la climatologie, qui s'appelle Michael Mann, eh bien, il a perdu son procès. Et donc, ça remet très très fort en question la thèse officielle de la climatologie, et ça, je trouve ça une excellente nouvelle, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous parlerai la semaine suivante d'un autre procès qui vient d'être perdu, cette fois-ci par le gouvernement américain, qui n'a pas été capable, dans un procès qui a été perpétré par le sénateur Kennedy, qui a été engagé par le président Trump dès son arrivée au pouvoir. Et donc, le gouvernement américain vient de perdre un procès où il n'a pas été capable de prouver la moindre étude qui justifie la politique vaccinale qu'ils avaient depuis 30 ans aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement n'est pas capable de justifier via des études sérieuses, pourquoi ils mettent en place un plan de vaccination aussi contraignant vis-à-vis des enfants et donc vis-à-vis des parents. Et donc ça, ce sont, je dirais, deux excellentes nouvelles. Je trouve que ça commence extrêmement bien l'année 2020 parce que je pense que de plus en plus les mensonges qui ont été le moyen le plus présent de l'élite pour essayer d'asseoir son pouvoir, eh bien, ces mensonges sont en train de craquer de toutes parts. Donc, je ferme ma parenthèse pour vous donner rendez-vous lundi prochain et le lundi suivant, mais je reviens à la question du jour qui est, mais est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire finalement lorsqu'on se rend compte que le système qui est en place, hein, ce que je décrivais il y a quelques instants comme l'élite mondiale, les multinationales qui ont bien plus de puissance et de moyens financiers que la plupart des États du monde aujourd'hui, quand on se rend compte que l'agro-business, donc toute l'industrie de l'agroalimentaire, toute l'industrie de Big Pharma, tout le milieu de la finance est mis en place pour nous rendre malades avec la bouffe qu'on reçoit dans nos assiettes, pour nous rendre malades aussi avec tout l'arsenal médical et pour nous rendre de plus en plus pauvres avec les taxes qui sont de plus en plus lourdes et avec un effet d'aspirateur de la part des banksters, c'est-à-dire les banquiers gangsters qui se sont organisés pour concentrer de plus en plus de richesses dans de moins en moins de mains. Quand on voit tout ça, faut-il lutter contre ce système et en avons-nous les moyens? Et puis, lutter contre ce système, est-ce que ça ne le renforce pas? Alors, évidemment, comme toutes les interpellations que j'ai reçues de la part de mes amis et des membres de ma chaîne privée, comme je sais que ça part de personnes qui ont beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour vis-à-vis de moi, quand une critique, quand une interpellation vient de quelqu'un dont je sais qu'ils ont une bonne intention, je me remets en question systématiquement. Je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté, il y a quelque chose que j'ai pas vu, et donc réfléchissons, méditons là-dessus, et c'est ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris du retard dans l'enregistrement, parce que j'ai enregistré une autre version que vous ne verrez jamais. Et dans ma méditation, j'ai pensé d'abord à une chanson de Jean-Jacques Goldman. Vous savez probablement, si vous me suivez depuis un certain temps, que j'adore les chansons de Jean-Jacques Goldman, j'adore ses textes surtout. Je trouve qu'il y a des textes qui sont beaucoup plus profonds que beaucoup de livres de développement personnel ou de philosophie. Et il y a un texte que j'apprécie énormément dans son album Fredericks Goldman Jones. Et c'est né en 17 à Leidenstadt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, vous l'écouterez ou je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous alliez l'écouter, puisque je n'ai pas les droits de la diffuser, mais je voulais quand même vous lire les paroles qui se trouvent dans ma partition de piano, parce que moi j'adore jouer les chansons de Goldman au piano. Et il dit ceci, il dit « Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt ?» Sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves, de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent? Bon, il continue dans sa chanson, je ne vais pas vous faire la lecture de toute la chanson, il y a un refrain qui arrive et qui dit « On saura jamais » ce qu'on a vraiment dans nos ventres. Caché derrière nos apparences, l'âme d'un brave, ou d'un complice, ou d'un bourreau, ou le pire, ou le plus beau, serions-nous de ceux qui résistent, ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots. J'aime beaucoup cette phrase, hein. Serions-nous de ceux qui résistent? Donc, est-ce que nous serions ceux qui vont lutter contre le système, qui vont s'opposer au système? Ou est-ce que nous allons être les moutons d'un troupeau s'il fallait plus que des mots, c'est-à-dire s'il fallait poser des actes, s'il fallait s'engager en actes? Et il termine sa chanson en disant, il répète, et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. J'aime beaucoup cette position de Jean-Jacques Goldman où il termine finalement sa chanson en disant « Bah écoutez, moi je ne donne pas de réponse, je vous pose juste la question. hein, et qu'on nous épargne, à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp, c'est-à-dire à se mettre en résistance par rapport à l'horreur qui s'en vient, ou à être parmi le troupeau, hein, à être le mouton d'un troupeau, s'il fallait s'engager, s'il fallait poser des actes. Et c'est vrai que si quelqu'un né en 17 à Leidenstadt avait vu l'invasion de l'Allemagne pour la Pologne en 1939, c'est-à-dire que si cette personne avait eu 22 ans, et c'est ça la question que pose Jean-Jacques Goldman finalement, si moi j'étais né en 17 à Leidenstadt, et si en 1939 je me rends compte de ce que Hitler est en train de mettre en place avec le ghetto de Varsovie, etc., en 1939, j'ai 22 ans, je suis engagé dans l'armée allemande, et qu'est-ce que je choisis à ce moment-là? Est-ce que je choisis de ne pas lutter contre le système, contre le rouleau compresseur qui est là, et dont on sait ce qui va arriver. Parce que je vous rappelle quand même que Hitler avait écrit Mein Kampf, qui veut dire en allemand mon combat. Donc il avait annoncé à l'avance quel était son plan. Les Allemands ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que moi j'aurais fait, moi, en 1939? Est-ce que je serais rentré en résistance? Hein, aurais-je été, hein, serions-nous de ceux qui résistent, ou est-ce que j'aurais été les moutons d'un troupeau? Et je dirais que aujourd'hui, je suis confronté exactement à la même question. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin, Hitler, c'était quand même le mal absolu. On est quand même loin de ce mal absolu. J'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr. Et c'est ça qui m'emmerde, vous voyez? Quand je dénonce ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire, quand je dénonce cette emprise que Monsanto a sur le monde, où il a réussi à breveter le vivant de telle sorte que maintenant, ressemer des graines, c'est une atteinte à la propriété intellectuelle. Et donc des agriculteurs se font attaquer par Monsanto pour vol de propriété intellectuelle parce que tout simplement les graines se sont transportées d'un champ à l'autre avec le vent et que les agriculteurs n'ont plus la possibilité de reprendre un dixième de leur récolte pour la ressemer l'année suivante, c'est-à-dire que les agriculteurs sont arrivés dans une situation de complète dépendance. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une dictature mondiale où, à un moment donné, il y aura un petit groupe de personnes, il y aura un petit groupe d'entreprises qui décideront quel pays pourra manger à sa faim et quel pays ne pourra pas manger à sa faim. Même chose avec la privatisation de l'eau, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques énormes multinationales pour l'instant qui sont en train de privatiser l'eau potable dans de plus en plus de pays. Et ils ont commencé par les pays pauvres, où ils rachètent la dette de ces pays pauvres, en échange de quoi les dirigeants de ces pays qui sont complètement déjà exsangues et complètement étranglés par le Fonds monétaire international ou par la Banque mondiale, eh bien, en échange d'un allègement de leur dette, ils donnent à ces multinationales le monopole de la distribution et de la vente de l'eau potable. Quand je vois qu'il y a des plans qui sont écrits, qui ont comme projet de rendre la vaccination obligatoire dans tous les pays du monde, depuis la naissance jusqu'à la mort, et que régulièrement, même en tant qu'adultes, nous serons confrontés à des rappels de vaccination. Et si ces rappels de vaccination ne sont pas en ordre, nous n'aurons plus la possibilité de renouveler notre passeport, nous n'aurons pas la possibilité d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, etc., etc. Et tout ce que je vous dis là, c'est documenté, ce n'est pas des élucubrations ou des fantasmes de Jean-Jacques Crèvecœur. Quand je vois ce qui est en train de se jouer au niveau de l'agroalimentaire, c'est-à-dire cette fois-ci la nourriture qui se trouve dans nos assiettes et toutes les saloperies qu'on nous met dans nos assiettes si on n'achète pas la nourriture biologique. Mais c'est, je dirais, le lot de l'immense majorité du monde, c'est d'acheter de la saloperie. J'en veux pour preuve un livre que je viens d'acheter sur la recommandation d'une de mes amies naturopathes qui est Vous êtes fou d'avaler ça, de Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça. En fait, Christophe Brusset était un ancien cadre, un ancien dirigeant de l'industrie agroalimentaire et qui, à un moment donné, a eu un remords de conscience et un conflit au niveau de sa conscience de se dire, mais non, je ne peux pas continuer à être complice d'une industrie qui empoisonne les gens de cette façon-là et qui les rendent malades, qui les rendent obèses, qui les rendent addicts à une nourriture qui n'est même pas nécessaire, mais qui est une nourriture qui est faite pour que nous consommions de plus en plus, pour que nous soyons de plus en plus gros et que nous soyons de plus en plus malades. Et je peux continuer la liste comme ça, je peux vous parler du déploiement de la 5G qui s'annonce déjà dès à présent, d'après les spécialistes qui connaissent bien la question, comme une catastrophe sur le plan sanitaire, sur le plan, il va y avoir une explosion de la dégradation de la santé à cause de ces ondes qui ont une puissance une énergie qui est infiniment plus importante que ne l'était la 3G ou la 4G. Alors, ok, peut-être ce ne sont pas des choses qui sont faites intentionnellement pour nous exterminer. On n'est peut-être pas effectivement dans la situation de l'Allemagne nazie de 1933 à 1939, à l'époque où on pouvait encore espérer que les choses soient différentes. Mais la question reste entière. Moi, ça fait 40 ans que j'étudie tous ces dossiers. Ça fait 40 ans que je lis des dizaines, des centaines de bouquins de gens qui sont spécialistes du domaine et je n'ai pas de réponse. Parce qu'effectivement, je suis bien d'accord avec mes amis qui me disent, mais enfin, Jean-Jacques, quand tu luttes, si tu veux lutter contre le système, tu vas faire que le renforcer. Et c'est vrai que moi-même, dans mes séminaires sur les relations interpersonnelles, je l'enseigne depuis 1989, donc ça ne date pas d'hier. Ce que je dis, c'est que si quelqu'un veut essayer d'avoir une emprise sur vous, donc va faire pression sur vous pour vous faire, pour vous faire dire, pour vous faire penser, pour vous faire ressentir quelque chose, et si vous vous mettez en résistance par rapport à cette volonté d'emprise, cette volonté de pouvoir sur vous, eh bien, plus vous allez vous mettre en résistance, plus ça va créer ce qu'on connaît bien en physique, un phénomène d'action et réaction. Ce phénomène d'action et réaction va faire que la personne va être encouragée à avoir encore plus de force, encore plus de pression sur vous. Du coup, vous allez être obligé de résister encore davantage, et puis l'autre va encore pousser davantage, etc. Donc effectivement, on pourrait se dire, ok, si on lutte contre le système, ben on va faire que le renforcer. C'est ce que Vadim Zeland dit aussi dans sa théorie, dans son modèle de transurfing, qui est un modèle quantique de croissance individuelle. Et Vadim Zeland, qui est lui-même un physicien quantique russe, dit, ça ne sert à rien de lutter contre les balanciers. Les balanciers, ce sont ces grosses entités énergétiques qui ont un tel pouvoir je dirais, de fascination et une telle emprise sur la population. Vadim Zeland nous dit, si vous luttez contre les balanciers vont vous retomber sur la figure, vont vous revenir en boomerang, d'où le terme de balancier, vous voyez. Et donc, plutôt que de lutter contre les balanciers, eh bien, choisissez un autre champ de réalité. Hein? Changez de rayon. Hein? Il donne cette métaphore d'un grand magasin où il y a plusieurs rayons. Eh bien, s'il y a un rayon où les produits qui vous sont proposés ne vous plaisent pas, eh bien, vous changez de rayon tout simplement et tout va bien. Et c'est ce que mes amis me disent. Ils me disent, mais arrête de dénoncer ce qui ne va pas, arrête de ce qui est en train de nous tomber sur la figure et qui peut porter atteinte sur la santé des individus ou sur son bien-être, etc. Et viens construire un nouveau monde et une nouvelle ère, une nouvelle vie avec nous. Et ça, c'est ce que j'ai fait en tant que formateur pendant 30 ans. Mais, je pense que, pour répondre à Jean-Jacques Goldman, nous ne sommes pas dans une situation où nous devons choisir l'un ou l'autre camp. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'effectivement, lutter contre un système rouleau-compresseur qui est en train de détruire toute forme de vie soit la meilleure solution, d'autant plus que ce rouleau-compresseur est 1 million de fois plus fort et a 1 million de fois plus de moyens que nous, les petites fourmis qui sommes là à essayer de nous dépêtrer dans l'existence. Donc je ne pense pas que ce soit la solution, mais je ne pense pas non plus que la solution ce soit uniquement de dire « Ok, essayons de méditer, essayons de construire des choses au niveau local, essayons de faire en sorte que dans nos communautés, dans nos villages, il y ait des choses qui se passent, qui soient positives, où on recrée un tissu social intéressant, où on recrée de solidarité, etc. » Ce qui est important, hein, ce qui a été démontré dans le film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, c'est clair que si ce film « Demain » a eu énormément de succès, c'est parce que justement, il nous montre que oui, il y a un espoir de vivre des choses différemment, il y a un espoir de vivre les choses de façon beaucoup plus positive et un autre monde est possible. Ma position, et c'est la seule réponse que j'ai pour l'instant, c'est que non, je ne veux pas continuer à lutter contre le système parce que je le sais, je serai écrasé par ce système ou je me ferai assassiner comme énormément de personnes que je connais ont été assassinées. Comme la pauvre Claire Sévrac qui avait écrit d'abord « Complot mondial contre la santé ». Déjà là, elle avait été mal vue par les médias. Et puis lorsqu'elle a eu l'outrecuidance de sortir un autre livre qui s'intitule « La guerre secrète contre les peuples » où là, elle dénonce des choses encore plus graves au niveau des chemtrails, au niveau de ARP, au niveau de la manipulation du climat, etc. Eh bien, quand Claire Sévrac a commencé à donner ses conférences autour de ce nouveau livre, eh bien, 10 mois plus tard, elle était assassinée. Et je pourrais vous citer comme ça beaucoup de personnes qui ont été assassinées parce qu'elles ont commencé à dénoncer ce qui se passait dans le système. Est-ce que j'ai envie d'être assassiné? Je n'en ai pas peur, mais j'ai encore quelques bricoles à faire sur cette terre avant de tirer ma révérence, donc je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas non plus exclusivement dire « Ok, on va continuer à travailler sur soi, on va continuer à créer un nouveau monde et des choses positives ». Ce que je pense, c'est qu'il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, pour moi, c'est la voie de l'information. C'est de se dire, nous avons maintenant le devoir de nous informer à des sources qui soient les plus indépendantes possibles. C'est ce que je vous ai dit dans les dernières conversations du lundi. Il est peut-être temps de se tourner vers des sources d'informations multiples qui sont beaucoup moins entachées de conflits d'intérêts et qui peuvent peut-être nous donner des informations qui soient plus objectives, entre guillemets, sachant que l'objectivité totale n'existe pas. Pourquoi ? Ben, pour simplement nous donner une capacité de choix et de discernement de façon beaucoup plus autonome et qui ne dépendent plus du discours dominant qui est véhiculé par les médias de propagande, c'est-à-dire les médias traditionnels. Et je pense que le véritable combat aujourd'hui, c'est le combat de l'information, qui est un combat tout à fait non violent. C'est un combat d'information qui peut se manifester de différentes façons. D'abord, c'est d'abord s'informer soi-même. Et voyez, par exemple, bon, je ne prends qu'un seul exemple, mais si au moment où j'étais futur père de famille pour la première fois en 1986-87, puisque ma fille est née en 1987, en tant que père de famille, je me suis posé des questions que la plupart des pères de famille ne se posent pas d'ailleurs, malheureusement. C'est, ok, est-ce que je vais vacciner mes enfants ou pas ? Voilà, parce que je dirais que c'est une question responsable. C'est, voilà, je vais être responsable dans quelques mois d'un d'un petit bout d'homme ou de femme, je ne savais pas à l'époque si c'était une fille ou un garçon, qu'est-ce que je vais faire en tant que responsable de ce petit être fragile? Je veux lui donner le meilleur, évidemment, mais alors c'est quoi le meilleur en termes d'alimentation, en termes de vaccination, en termes de... Et donc, c'est là où je suis tombé sur un des livres de Sylvie Simon. Alors, ce n'était pas celui-ci, parce que celui-ci est sorti 10 ans après la naissance de ma première fille, mais Sylvie Simon avait déjà écrit d'autres livres. Et quand j'ai lu les premiers livres sur la vaccination, il y avait des livres pour la vaccination, il y avait des livres contre la vaccination, mais je vous avoue que j'ai été beaucoup plus convaincu, alors qu'à l'époque, j'avais aucune opinion pour ou contre la vaccination. Simplement, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était. Et quand j'ai commencé à voir les chiffres, les preuves qui étaient documentées par toute une série de documents officiels qui ne venaient pas des réseaux sociaux, moi je suis désolé, mais en 1999, qui est la date de ce bouquin-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et de toute façon, les anti-vaccinaux ont toujours existé. J'ai en main un fac-similé d'un rapport qui a été fait en 1883. Oui, vous entendez bien, c'est 1883 qui avait été fait pour dénoncer toutes les fraudes qui avaient été perpétrées par Edward Jenner. Jenner, vous ne le connaissez peut-être pas, mais dans les années 1850, Jenner a créé le premier vaccin. En fait, le créateur de la vaccination, ce n'est pas Pasteur, c'est Jenner, qui en Angleterre a créé le vaccin contre la variole. Oui, c'était vaguement inspiré de ce que les Chinois faisaient depuis plusieurs milliers d'années, qui était la variolisation, mais ça n'avait rien à voir en fait avec l'approche de Jenner. Et donc, 30 ans plus tard, avec des hécatombes qui avaient été provoquées par la vaccination, les campagnes de vaccination de Jenner, il y a des bouquins qui sont sortis avec des documents officiels à l'appui pour condamner Jenner des fraudes et des mensonges qui avaient été perpétrés avec la complicité des organismes publics de vaccination et de santé publique de l'époque, qui étaient déjà corrompus et qui avaient un intérêt financier dans les ventes et dans la fabrication des vaccins. Même chose pour Pasteur. Quand Pasteur a créé son premier vaccin contre donc c'était contre la rage, il y a un scientifique de très haut niveau qui était Antoine Béchamp, qui était bien plus connaissant de la physiologie humaine et des systèmes microbiens, etc. Il faut quand même vous rappeler que Pasteur n'était ni médecin, ni vétérinaire, ni quoi que ce soit. Il était chimiste, donc il n'avait pas de connaissance de la physiologie ni de la bactériologie ou de la virologie de l'époque. Et donc Béchamp s'est battu bec et ongles pour essayer de faire taire Pasteur, dont il avait les preuves que Pasteur avait fraudé, avait acheté les médecins qui avaient validé les expériences qui avaient foiré chez Pasteur. Mais Pasteur, qui était très bien introduit auprès de la cour de Napoléon III, avait réussi à acheter le ministre de la Santé publique de l'époque pour promouvoir la vaccination obligatoire contre la rage. Et c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Donc, si je n'avais pas eu ce genre d'informations, c'est clair que j'aurais fait vacciner mes enfants aussi. Vous comprenez? Et en faisant vacciner mes enfants, je prenais le risque peut-être de provoquer au minimum des maladies, peut-être des maladies chroniques ou de l'asthme ou d'autres maladies plus gênantes par la suite. J'aurais pu aussi peut-être déclencher un autisme chez une de mes filles, on ne sait jamais. Et j'aurais attribué cela à la fatalité, j'aurais attribué ça à la faute à pas de chance, vous voyez? Donc, pour moi, c'est clair que Sylvie Simon n'a jamais voulu se battre contre le système pharmaceutique, mais par contre, ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est consacrer son existence à s'informer elle-même, à aller chercher dans les sources scientifiques, toutes les preuves et dans toutes les sources de statistiques aussi, toutes les preuves que la vaccination est inefficace, dangereuse et inutile. Et simplement, elle a mis l'information à la disposition des gens. Donc en fait, à partir du moment où l'information est là, nous pouvons avoir la possibilité de choisir en conscience. Hein, quand on dit en médecine, il faut que le patient fasse des choix conscients et éclairés, ben, pour qu'il se soit conscient et éclairé, il faut qu'il ait de l'information. Et c'est pour ça que moi, je me bats. Je me bats pour une information libre. Et c'est vrai que je reconnais que je pète un câble de temps en temps quand je vois qu'il y a une censure de plus en plus grande au niveau de l'information. J'en veux pour preuve un article qui m'a complètement fait péter les plombs. C'est un article du 26 janvier 2020, et cet article s'intitule « Que font les géants du web contre la désinformation ?» Alors je vous lis quelques passages. Je vous laisserai le PDF sous la vidéo si vous écoutez cette vidéo sur la chaîne privée, à laquelle je vous invite à vous inscrire gratuitement, parce que ma chaîne privée est une chaîne d'information qui fait justement le travail que je suis en train de vous expliquer depuis 30 minutes. Donc, dans cet article du site de Radio-Canada, voici ce qui est dit. Par leur caractère démocratique, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube permettent à quiconque de publier du contenu non vérifié ou encore d'usurper l'identité d'une autre personne. Cette liberté a permis la prolifération de désinformation, notamment dans le domaine de la santé et de la politique. Face à des conséquences telles que des épidémies de rougeole ou encore de l'ingérence durant les élections présidentielles américaines de 2016, les dirigeants de ces compagnies ont été sommés d'en faire plus contre les fausses nouvelles. Donc on se demande par qui ces dirigeants de compagnies, qui normalement sont des compagnies indépendantes, par qui ces dirigeants ont été sommés d'en faire plus contre les fausses nouvelles. Dans le domaine de la santé, la désinformation sur les vaccins est sans doute la plus tenace, et c'est là-dessus que les géants du web ont concentré la majeure partie de leurs efforts. Donc quand je vous parlais il y a quelques mois du fait que je suis... Mes pages YouTube et Facebook n'ont pas été encore supprimées, mais par contre, regardez ce qui se passe. Hein, pour ceux qui douteraient encore de ma bonne foi ou de ce que je vous ai raconté il y a quelques mois. La plateforme de partage d'images Pinterest a été une des premières à réagir en choisissant de bannir tous les résultats de recherche avec des termes associés aux vaccins, sauf ceux qui proviennent d'organismes de santé publique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites une recherche maintenant sur Pinterest et que vous cherchez à avoir une information libre, objective et éclairée sur les vaccinations, eh bien, vous n'avez plus aucune chance de tomber sur les sites qui vous offre une information qui n'est pas entachée de conflits d'intérêts. Vous n'allez plus tomber que sur les organismes de santé publique qui promeuvent, sans l'ombre d'un doute et sans l'ombre d'une remise en question, je dirais la l'utilité et la non-dangerosité des vaccins. Et ils disent, une étude réalisée en 2016 avait démontré que 75% des publications sur les vaccins sur Pinterest étaient négatives. Ben, tu parles, c'était le seul endroit où des gens qui ne faisaient pas partie de Big Pharma ou des grosses compagnies de médias pouvaient encore s'exprimer. Eh bien, les amis, c'est fini ça. Sur Facebook, écoutez bien ça, les groupes et les pages anti-vaccins continue de proliférer, mais ce n'est que récemment que le géant est intervenu pour réduire leur portée. En 2019, alors que les épidémies de rougeole, hein, on nous fait toujours croire que la moitié de la Terre va mourir à cause de la rougeole, alors que les épidémies de rougeole continuaient à sévir aux États-Unis, Facebook a finalement annoncé qu'il réduirait la visibilité des contenus anti-vaccins, toutefois sans les retirer. Donc ça veut dire quoi? Réduire la visibilité des contenus anti-vaccins. Écoutez ça parce que ça me concerne aussi. Ainsi, ces pages et ces groupes n'apparaissent plus dans les résultats de recherche, comme sur Pinterest, et les organisations anti-vaccins ne sont plus autorisées à acheter des publicités pour mettre en valeur leur contenu. Et ça continue comme ça. Donc, si vous pensez que quand je vous parle de censure au niveau de l'information, si vous pensez que j'affabule, eh bien non, je n'affabule pas. C'est maintenant une réalité, c'est-à-dire que il va devenir de plus en plus difficile de toucher des personnes qui ne nous connaissent pas encore. C'est-à-dire que si vous m'entendez sur YouTube ou sur Facebook, c'est parce que probablement vous êtes déjà passé par mes pages, mais ça va être de plus en plus difficile de me trouver par hasard si on fait des recherches sur, par exemple, l'information sur les vaccins. Et donc, je dirais que c'est, pour moi, c'est ça l'enjeu principal. C'est pas de lutter contre le système. Ça, je suis bien d'accord. Ce n'est pas non plus de simplement rêver à un monde meilleur et d'agir pour construire un monde meilleur, même s'il faut le faire. Je pense que la meilleure façon de trouver les meilleures actions pour construire un nouveau monde, c'est d'abord de faire un état de la situation, faire un état des lieux, savoir exactement ce qui se passe pour l'instant au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, au niveau de la santé, au niveau de la vaccination, au niveau de l'alimentation, au niveau des finances. Si vous n'avez pas une information la plus précise possible, comment allez-vous choisir les actions positives que vous allez mener en place? C'est ça le sens de, je dirais, ma démarche depuis quelques mois. Ça a été le sens de ma démarche depuis 40 ans et ça reste le sens de la démarche. Chaque fois que je dois prendre une décision pour ma vie ou par la vie de mes enfants, bon maintenant mes filles sont grandes donc je n'ai plus de décision à prendre pour elles, eh bien je me suis d'abord informé. Je me suis informé à des bouquins écrits par des gens qui sont spécialistes du domaine. Moi je ne suis pas spécialiste de ces domaines-là. Mais par contre, j'ai lu beaucoup plus que la plupart des médecins en matière de vaccination. Et je n'ai peur d'aucun médecin pour aller discuter avec eux parce que j'en sais 10, 50 fois plus qu'eux en matière de vaccination. Et donc quand les publicités publiées, diffusées par les médias, quand ils vous disent parlez-en à votre médecin, c'est une vaste rigolade parce que la plupart des médecins ne savent rien sur les effets secondaires de ce qu'ils vous injectent lorsqu'ils vous injectent des vaccins ou lorsqu'ils injectent des vaccins à vos enfants. Alors c'est vrai que je m'énerve. C'est vrai que je m'énerve, la plupart du temps, je suis énervé, mais j'ai décidé de réenregistrer cette vidéo que vous entendez pour l'instant parce que la vidéo que j'avais enregistrée dimanche dernier, là, j'étais vraiment en colère. Je me fâchais, mais vraiment, j'ai tapé sur la table, etc., parce que j'étais furieux d'avoir lu cet article qui nous prouve, qui nous donne la preuve irréfutable que maintenant, la censure, elle est bien active sur les réseaux sociaux, de la même façon qu'il y a des lois maintenant anti-fake news, alors qu'en réalité, les fake news, c'est-à-dire les nouvelles fausses, les nouvelles mensongères, sont beaucoup plus diffusées par les médias dominants que par les médias indépendants. Alors je ne dis pas que les médias indépendants ne racontent pas des conneries de temps en temps, mais elles en racontent beaucoup moins et beaucoup moins entachées des conflits d'intérêts. Alors pour terminer, je voudrais vous faire peut-être deux petites recommandations de lecture pour vos prochaines vacances. Je dirais d'abord, ben, allez relire 1984 de George Orwell, et vous verrez que dans 1984, il y a entre autres cette notion du ministère de la vérité, qui est en fait un instrument de propagande digne de ce que Joseph Goebbels faisait à l'époque d'Hitler. C'est vraiment le ministère de la vérité n'arrête pas de raconter des mensonges, mais comme le disait Goebbels, répéter un mensonge 1000 fois, ben, ça restera un mensonge, mais si vous répétez ce mensonge 10 000 fois ou 100 000 fois, ça deviendra la vérité pour l'ensemble du peuple. C'est ce que Goebbels, directeur de la propagande de Hitler, a fait. C'est ce qui est démontré, c'est ce qui est décrit dans le roman 1984. Vous allez voir à quel point ce roman est je dirais, d'une modernité et d'une actualité absolument extraordinaire. L'autre roman que je vous recommande pour vos prochaines vacances aussi, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, où là aussi, vous allez voir, ce sont d'autres aspects qui sont étonnamment modernes, alors que Aldous Huxley a écrit Le meilleur des mondes, je crois, dans les années 20 ou les années 30. Donc ça fait quand même pratiquement 100 ans que ce roman a été écrit, et pourtant il n'a pris aucune ride par rapport à la réflexion sur ces démocraties qui ont une apparence de démocratie, mais qui en réalité sont une dictature qui ne disent pas leur nom. Donc, Merci de laisser sous cette vidéo votre vision des choses et comment mon partage d'aujourd'hui en toute intimité trouve un écho chez vous. Est-ce que vous comprenez mieux les enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui? Ça m'intéresse véritablement de vous lire, que vous soyez sur ma chaîne privée, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour décrypter avec vous ce procès que Michael Mann a perdu. Michael Mann, le pape de la climatologie. Alors, à très très bientôt et prenez bien soin de vous.